Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Salut, salut, ici Julie. Aujourd'hui, je retrouve Jean-Guillaume, fondateur de la marque Pitoumarca, qui utilise un coton très spécifique pour ses vêtements. Ensemble, on a discuté de l'utilisation du coton dans l'industrie textile et de ses nombreuses conséquences néfastes, et de l'intérêt pour lui de se tourner vers d'autres cotons, le coton sauvage qui pousse en Amazonie et le coton Pima qu'on retrouve au Pérou. Allez, c'est parti pour une balade dans l'univers du coton. Salut Jean-Guillaume, bienvenue à toi dans La Voie Verte. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'une plante qui est hyper connue dans l'industrie textile. Mais tu vas nous parler d'une variété qui est peut-être un peu moins connue. Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Ouais, salut Julie, merci pour ton invitation. Alors moi c'est Jean-Guillaume, j'ai créé une marque de vêtements éco-responsables et éthiques qui s'appelle Pitoumarca, du coup, qui est une marque qui met en avant le Pérou. Et pour comprendre le projet, en fait, il faut savoir que je suis franco-péruvien. Ce projet Pitoumarca, en fait, alors il y a plusieurs objectifs, mais un des premiers objectifs, ça a été de mettre en avant des films naturels du Pérou et le Pérou en lui-même. Ça me tenait à cœur. Et deuxièmement, c'est un projet aussi éco-responsable parce que je devenais de plus en plus écolo, en fait, avec les années qui passaient, comme beaucoup de personnes, je pense. Et il y a un moment où je me suis retrouvé un peu en décalage par rapport à ce que je faisais au quotidien dans mon ancien job. Et j'ai réfléchi à tout ça. Je me suis renseigné sur pas mal de sujets et j'ai vu que l'industrie textile était malheureusement une des industries les plus polluantes au monde. Et je me suis dit que je pouvais, entre guillemets, démultiplier des petites actions du quotidien et avoir plus d'impact à mon modeste niveau, bien sûr. Et ça tombait bien, puisque le Pérou a des super films naturels et notamment un des meilleurs cotons au monde, on aura l'occasion d'en
ouais,
parler.
Tout à fait.
Et du coup, c'était le projet qui était un peu tout tracé. Hein. Je pouvais allier un projet éco-responsable avec la volonté de mettre un peu plus en avant le Pérou, et c'est pour ça que j'ai créé Pitoumarca.
Ok, super. Peut-être qu'on présentera la marque après pour pouvoir parler d'abord un peu de coton, parce que donc on va parler de coton aujourd'hui. Et avant de parler du coton un peu spécifique que toi tu utilises dans ta marque, on peut peut-être reprendre du début et expliquer ce que c'est le coton, qui est quand même, je ne sais pas si c'est la matière d'ailleurs la plus utilisée, mais c'est une des matières qu'on retrouve le plus dans l'industrie textile, et qui est loin d'être, on utilise une plante, mais tu vas nous expliquer que ce n'est pas tout à fait écolo comme matière naturelle qu'on utilise.
Ouais, tout à fait. En fait, dans l'industrie textile, quand tu achètes un vêtement, tu as différentes matières, tu as des matières naturelles comme le coton, par exemple, ou la laine, ou plein d'autres matières, et tu as d'autres matières synthétiques, comme le polyester, en fait, qui représentent une part énorme des matières qui sont utilisées pour nos vêtements, parce que c'est pas cher à produire. On va pas forcément parler du polyester, qui est une matière très polluante, mais de l'autre côté, effectivement, tu as le coton, qui est de base, qui est quand même une très, 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 très bonne matière naturelle, hein, en fait. Au niveau de ses qualités, on peut citer un très bon pouvoir absorbant. C'est un tissu en fait qui va être extrêmement respirant, qui va être doux, qui va être confortable, qui va être hypoallergénique. Et le coton, peut-être que les gens ne se posent pas forcément la question, mais le coton de base c'est une matière naturelle végétale. Donc en fait c'est une plante qu'on va planter, qui va pousser, et en fait il y a ce qu'on appelle une fleur de coton, donc qui va éclore. Et voilà, en fait, la plante va pousser, on a ce qu'on appelle une capsule qui va s'ouvrir, et derrière, il y a des fibres blanches qui vont arriver à maturation et qui vont mesurer entre 2 et 4 cm de long. Donc voilà, donc c'est cette matière, en fait, c'est cette fleur de coton qu'on va récolter. Dans le monde, en fait, c'est souvent des machines en fait, qui vont prendre ce coton et ensuite... Il y a différentes étapes qui vont que ça va, on va transformer ça en tissu et après en vêtements.
Ok. C'est pour ceux qui ne verraient pas, c'est vraiment la fleur de coton qu'on voit dans les bouquets souvent qui est séchée, en fait, mais qui est donc cette petite boule blanche, voilà, comme du coton qu'on utilise chez nous, quoi.
Exactement. Et donc, du coup, c'est donc ce coton est récupéré une fois par an. Donc, on va le planter. En fait, on est sur de l'agriculture vraiment intensive. En fait, on va, dans le monde, dans certains pays comme l'Inde ou la Chine, on va planter à grand renfort de pesticides et d'engrais. En gros, ça va pousser en un an. Il y a des grosses machines avec des peignes à l'avant qui vont passer et tout arracher, en fait, enlever. Et ensuite, on va utiliser ce coton pour le transformer en tissu, du coup.
Est-ce que le coton, d'ailleurs, pousse ? Ah oui, tu vas nous expliquer avec le coton pima, mais normalement, il pousse à l'état naturel. Mais nous, du coup, on le plante pour l'industrie textile.
Ouais, exactement. Alors, je suis pas un expert, mais dans les grandes lignes, en fait, on va effectivement, t'as des OGM, t'as des cotons qui sont transformés pour qu'ils résistent mieux aux insectes. Mais en gros, on va le planter, on va utiliser d'énormes quantités d'eau, en fait. Parce que le coton, en fait, il va avoir besoin d'un certain nombre de conditions climatiques. Donc, ça va pousser dans des latitudes tropicales et subtropicales. Donc, ça va être essentiellement la Chine, l'Inde, le sud des États-Unis, l'Afrique aussi, Europe de l'Est également. Donc, au niveau de la culture, en fait, il va avoir besoin d'environ 120 jours d'ensoleillement, énormément d'eau, et après un temps sec, en fait, en fin de cycle pour permettre à ces fameuses capsules d'éclore. Et du coup, en fait, c'est toutes ces étapes mis bout à bout, en fait, c'est l'agriculture intensive, l'utilisation de pesticides et des quantités astronomiques d'eau qui font que le coton, malheureusement, a un impact environnemental qui est vraiment pas très cool, quoi.
Oui, tout à fait. Et on en reparlera un peu plus tard, mais ça a aussi évidemment un impact sur les travailleurs, je suppose, parce que c'est pas qu'une industrie qui détruit les sols. Mais juste avant ça, maintenant, on a du coton bio, quand même, parce qu'on en parle beaucoup. Alors évidemment, je sais pas si tu pourras nous expliquer les labels ou les différentes choses. Il y a tellement de choses qui peuvent préciser coton bio ou coton non bio. Mais est-ce que c'est déjà un point positif ? Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même meilleur, en tout cas pour les sols ou pour l'environnement ?
Tu as évoqué un point qui est super important, c'est qu'effectivement, c'est mauvais pour les sols, mais on n'en parle pas beaucoup, c'est également mauvais pour les agriculteurs, parce qu'en fait, ils vont utiliser des pesticides qui sont extrêmement néfastes pour la santé, et eux, derrière, ils vont avoir des cancers. Il y a beaucoup d'agriculteurs en Inde, notamment, qui vont mourir, malheureusement, de tout ça. Et en fait, le coton bio de façon générale, on va dire, l'agriculture bio est hyper positif pour les sols, pour les agriculteurs, et au final, pour les gens qui vont soit consommer des fruits ou légumes bio, soit, en l'occurrence, utiliser du coton bio, c'est vraiment... le fait d'utiliser du coton bio, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, tout le temps, en fait. Pour information, les surfaces agricoles, les surfaces utilisées dans le monde pour le coton, c'est à peu près 3%, et on utilise 25% des insecticides utilisés au niveau mondial.
Ok, et sur ces 3% coton bio, oui, ça doit être en fait hyper minime.
Malheureusement, c'est vraiment à la marge.
Après, il y a aussi la problématique de savoir est-ce que c'est vraiment un coton bio ou non. Il y a eu un scandale il n'y a pas très longtemps, il me semble. Je ne sais plus du tout dans quel pays, mais...
Ouais, c'est en Inde. Malheureusement, il y a plus de coton bio au niveau mondial qu'il y a de surface destinée à faire pousser du coton bio. Le bio, ça représente 1% de la production mondiale de coton, versus 6% à peu près pour l'alimentaire. Et le problème que j'évoquais, c'est qu'il y a beaucoup d'insecticides qui sont utilisés, notamment les néonicotinoïdes, les fameux, ouais, j'essaie d'être hyper factuel, c'est un peu déprimant l'industrie, mais malheureusement, ouais, ça engendre une grosse disparition des insectes. On estime qu'environ 50% des insectes ont disparu dans le monde à cause de cette agriculture intensive. Et en fait, on en a besoin, tout simplement, pour notamment, on parle beaucoup des abeilles, on en a besoin pour la pollinisation.
Tout à fait.
Et en fait, c'est un des premiers maillons de la chaîne alimentaire. Et du coup, le coton non bio participe à tuer ces insectes, en fait, dont on a besoin.
Bon, après ce petit temps un peu déprimant, on va essayer de vous remonter le moral, puisque Pitu Marca n'utilise pas de coton classique, tu vas nous en parler. On va parler d'un coton un peu particulier, alors qu'il y a plein de noms. J'ai trouvé aussi un nom, on l'appelle la soie de l'Amérique, ou je sais plus, un truc comme ça, qui est donc un coton, alors on le voit sur votre site, un coton sauvage, tu vas nous en parler, mais juste, est-ce qu'il ressemble au coton normal ? C'est le même système avec coton blanc qu'on voit au bout, la fleur qu'on utilise, c'est le même système que le coton classique ?
Ouais, c'est le même système, c'est une autre famille. Mais le principe reste le même. Tu as une plante qui pousse, elle va éclore, et à la fin, tu as la fleur de coton qui va sortir. Donc, dans 99,9999% des cas, c'est blanc. Et effectivement, côté péruvien et aussi un petit peu du côté du Brésil, tu as un coton qui est hyper rare, qui est naturellement coloré. Donc, tu n'auras pas du jaune fluo, bien sûr, mais tu auras du marron. En fait, tu auras des dérivés de marron, marron clair, marron foncé, beige. Dans certains cas assez rares, tu auras un coton qui va tirer vers le vert aussi.
La fleur est déjà colorée, en fait.
Ouais, exactement.
Super. Du coup, ça pousse où? Alors, donc, tu viens de parler du Pérou, mais je crois que ce n'est pas le seul pays où on en trouve.
Alors, le coton coloré, en fait, si tu veux tout savoir, c'est son nom technique, c'est Gossypium barbadens. Ouais, c'est un peu barbare. C'est un dérivé du coton pima, du coup. Le coton pima qui est d'origine péruvienne et qui représente à peu près 5% de la production mondiale. Et le coton pima, en fait, c'est un coton qui a ce qu'on appelle une fibre longue. En fait, son nom exact, c'est extra long staple. Contrairement au coton qui est utilisé partout dans le monde, en fait, on mesure la longueur d'une fibre exprimée en millimètres. Un coton traditionnel, on va dire, d'Asie, par exemple, va faire à peu près 25 mm de long, et le coton pima va faire entre 38 et 42 mm. Donc ça te permet d'avoir une fibre qui est beaucoup plus résistante. Tu peux concevoir avec ça des vêtements qui sont plus soyeux, plus doux, plus costauds, etc.
Tu vas nous en parler, mais il y a plein d'avantages effectivement au textile, enfin à l'utilisation textile de ce coton. C'est un coton qui n'est pas nouveau, évidemment. Tu peux nous raconter un peu du coup, il était utilisé il y a longtemps, il me semble.
Donc là, j'ai parlé du coton pima. Effectivement, ce coton naturellement coloré, pareil, c'est fait partie de la même famille. Et en fait, il a été utilisé, enfin, il est poussé de façon sauvage pendant des années, dans certaines régions du Pérou, essentiellement au nord et essentiellement du côté de la forêt amazonienne, en fait. Et en fait, c'est un coton qui a poussé de façon vraiment autonome pendant des années. Au début, il n'était pas du tout utilisé dans l'industrie textile. Il avait plutôt un côté un peu culturel, tu vois. C'était utilisé par les communautés locales pour être transmis de génération en génération, ou pour fabriquer des choses, des accessoires ou des vêtements, mais vraiment avec une dominance culturelle, voire religieuse, en fait, tu vois. Par exemple, on a retrouvé, il y a eu plusieurs civilisations au Pérou, les plus connues étant les Incas, et on a retrouvé dans certaines tombes des vêtements confectionnés en coton qui avaient plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc, avec l'alpaga, ça fait partie des fibres qui avaient une vraie connotation premium et culturelle, comme j'ai dit, quoi.
On va parler un peu peut-être des différences du coup avec le coton. Tu as déjà un peu expliqué, mais donc le côté fibre plus longue qui du coup change, et le côté couleur, évidemment, tu vas nous en reparler. Donc, je précise que je te vois en visio et que je pense que tu as un sweat de ta marque qui est en couleur. On remettra évidemment de toute façon le site internet, mais pour que vous ayez voir évidemment les couleurs des vêtements qui sont chouettes. Mais il y a plein d'autres différences du coup entre ce coton sauvage, donc on reparlera, et le coton conventionnel, même bio.
Bah écoute, la principale caractéristique, comme tu l'as dit, c'est sa couleur. Le coton est naturellement coloré, donc comme je l'ai dit, il est marron, marron clair, beige, etc. Et ça, c'est un énorme avantage, c'est que déjà pour concevoir les vêtements que je fais, par exemple, on a pas besoin de le teindre. Sans forcément repartir dans un truc déprimant, en fait, les teintures chimiques utilisées dans l'industrie textile sont extrêmement néfastes pour la santé et pour les fleuves. Et là, en fait, on arrive à s'émanciper, entre guillemets, de toute cette partie-là, parce que il y a zéro color, en fait. Donc ça c'est pas mal. Donc la fibre, elle est pas aussi longue que le coton pima, mais ça reste quand même une fibre assez longue, et du coup t'as une qualité de coton qui est supérieur à un coton conventionnel. Et après, j'ai envie de dire, c'est vraiment toutes les valeurs qu'il y a autour de ce coton qui font que c'est important, je pense, quand on commence à se renseigner, et peut-être pour les personnes qui cherchent plus de sens dans leurs habits. En fait, quand on achète du coton naturellement coloré, en l'occurrence celui-là, et ben derrière, en fait, on soutient des communautés d'agriculteurs qui travaillent au Pérou et qui sont fier de ce coton, qui le cultive avec beaucoup d'amour. Ça fait un peu cliché, mais c'est des groupements de familles qui bossent entre eux et qui sont entre guillemets protecteurs de ce coton qui est extrêmement rare, qui a failli disparaître en fait dans les années 60, et du coup qui en prennent soin, en fait, tout simplement.
Okay.
En introduction, je parlais de de ces grosses machines qui récoltaient le coton dans les champs avec leur peigne à l'avant. Là, c'est récolté à la main. Et derrière, en fait, il y a des certifications textiles qui permettent à ces agriculteurs d'avoir un salaire décent, des bonnes conditions de travail et des primes de développement. Donc ça, c'est le label Fairtrade. Et voilà. Donc quand on achète ce coton, on soutient ces agriculteurs et on permet à ce coton qui est rare et qui est dans une toute petite partie du globe de prospérer en fait.
Ok. Et est-ce qu'il est encore sauvage ou est-ce qu'il est quand même cultivé? Il est vraiment, ils poussent, eux, ils le laissent pousser, ils le récoltent et voilà, ils entretiennent peut-être les parcelles, mais ou est-ce qu'ils le plantent? Est-ce qu'il y a vraiment des semences de coton sauvage?
Je dirais que c'est un entre-deux. En fait, il va pousser dans certaines régions où effectivement, ce qui est déjà présent en fait va être protégé. Et après, c'est vraiment à toute petite échelle, ils vont essayer de le planter, de garder ces graines qui n'ont pas été transformées. En fait, comme on a parlé d'OGM tout à l'heure, mais c'est assez rare actuellement d'avoir des cotons qui ne sont pas transformés. Et ce coton qui est vraiment extrêmement ancien, ben, ils vont déjà, il y a une banque génétique en fait qui va répertorier toutes ces variétés. Et après, les agriculteurs vont faire en sorte de replanter et de faire prospérer ce coton pour pas qu'il se perde, en fait.
Il y a eu un travail des pouvoirs publics, non, peut-être, pour le protéger?
Ouais, exactement. Pour la petite histoire, en fait, ce coton a été classé, paradoxalement, ennemi de la nation il y a 50-60 ans au Pérou. Parce que, en fait, ils se disaient, il y avait vraiment de la méconnaissance à ce niveau-là, et ils se disaient, c'est quoi ce coton marron? Enfin, il est sale, normalement ça devrait être blanc, les gens ne comprenaient pas. Et les autochtones, en fait, les communautés au Pérou ont vraiment fait en sorte de le protéger. Et depuis, le gouvernement a un peu rétropédalé et il est classé au patrimoine culturel du Pérou depuis les années 2000.
On va parler un peu jardinage, mais du coup, il y a quand même une grosse différence, tu vas nous expliquer, de culture de ce coton, même de non-culture, puisqu'il peut pousser de façon sauvage. Mais parce qu'il me semble qu'il a du coup des intérêts au niveau de l'eau, de la consommation d'eau, mais même de plantes qui seraient associées, dont il a besoin pour pousser. C'est loin, alors je ne sais pas si les gens voient, mais le coton conventionnel, c'est vraiment des champs de coton où il n'y a que du coton planté en rangée. Là, ce n'est pas du tout le cas avec le coton sauvage, du coup.
Ouais, exactement. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir des images d'hectares immenses de coton qui sont plantés. Là, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement. On est sur des champs qui sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de végétation. Ce coton monte vraiment super haut.
Ouais.
Et il pousse avec plein d'autres variétés. En fait, faut comprendre que c'est les agriculteurs en fait qui développent, qui protègent ce coton. En fait, c'est des personnes qui ont peu de revenus, qui ont vraiment un mode de vie très très simple et qui ont besoin en fait de planter d'autres légumes en fait pour leur alimentation. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont planter du maïs par exemple ou de la pomme de terre, parce que le Pérou est le pays de la pomme de terre. Et à côté de ça, il y aura du coton sur les mêmes parcelles, et du coup, toutes les plantes entre elles vont un peu comme dans la permaculture, elles vont s'entraider. Du coup, elles vont pousser ensemble en symbiose.
C'est ce que j'allais te dire, ça fait très permaculture. Le Pérou est déjà connu pour ce qu'on appelle les trois sœurs, hein, maïs, courge, haricot, qui est donc un trio d'associations et qui fait très permaculture. Mais je vous invite vraiment à aller voir je crois que tu as des photos sur le site internet de ta marque. De culture, c'est vraiment très différent. Il y a vraiment beaucoup de plantes autour qui poussent effectivement à côté de ce coton qui monte. Ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus haut qu'un coton classique, effectivement. Et du coup, il n'y a pas du tout d'intrants chimiques, d'arrosage particulier?
Non, parce que déjà, la nature fait bien les choses. Le coton Pima et ce coton, il est naturellement résistant aux insectes.
D'accord.
Donc ça, c'est une des grosses particularités de ce coton. Donc déjà, tu n'as pas besoin d'insecticides de base. Et ensuite, donc moi, je travaille avec des fournisseurs qui sont certifiés GOTS, du coup, qui la certification textile la plus stricte. Donc tu as un volet social et un volet environnemental. Et sur le côté environnemental, tu as effectivement une matière qui est biologique, tu as interdiction de tout ce qui est insecticides, métaux lourds, des méthodes pas très cool pour la plante. Donc ça, c'est pour la partie culture. Et à côté de ça, tu as le coton ne pousse pas, tu peux pas le faire pousser n'importe où dans le monde. Et cette variété de coton ne pousse que dans cette région du globe, en fait, parce que tu as un ensemble de conditions qui font que ça va pousser, notamment au niveau de la pluie, au niveau des sols qui ont une haute concentration en minéraux, la salinité des sols, etc. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui font que ce coton pousse très très bien dans cette région du Pérou.
Ok, tu nous parlais du coup du volet social, parce que tu as peut-être reparlé des labels que tu as sur ce coton-là, parce qu'il est Fairtrade et il est GOTS, je ne sais pas si tu as d'autres labels, mais si je ne dis pas de bêtises, le label Fairtrade est plutôt axé sur les conditions de travail des agriculteurs, mais le label GOTS aussi, il me semble qu'il y a un volet, comme tu disais, social. C'est quoi la différence?
En fait, le label Fairtrade, ça a été créé historiquement par un certain nombre de pays. C'était à la base pour promouvoir la consommation équitable de pays du Nord et aider, permettre le développement durable des producteurs qui sont situés dans le Sud. Donc, c'est pour ça que tu peux le trouver dans le café, dans le chocolat, dans différentes choses. Et en fait, tu as vraiment un côté social. Donc, en l'occurrence, pour le coton, ça veut dire qu'il a été récolté par des familles ou des coopératives. En fait. À côté de ça, tu as un prix qui est garanti toute l'année. Même si le prix du coton venait à baisser, quoi qu'il arrive, les agriculteurs toucheraient un prix qui est juste, un prix au kilo. Ensuite, tu as un truc intéressant qui s'appelle une prime de développement. Donc, une fois par an, ils vont avoir, en plus du prix qui touche au kilo, ils ont une prime de développement qu'ils peuvent décider soit de réinvestir dans leur structure, soit de se la partager en fait entre familles.
Okay.
Et après, tu as toute une partie sur le respect des conditions de travail, donc pas de discrimination, pas de travail d'enfant, pas de travail forcé, etc. Et la certification GOTS, du coup, elle englobe une partie de ces choses que je t'ai évoquées, notamment sur travail forcé, etc. Mais tu as en plus le volet environnemental, où tu n'as pas d'OGM, pas de substances cancérigènes, pas de métaux lourds, pas de produits chlorés, pas de perturbateurs endocriniens, etc., etc.
Toi, c'est des choses que tu as été voir. Alors, on en avait déjà parlé. Évidemment, comme tu as des origines, tu as été au Pérou, tu as vu ce coton. Mais du coup, tu as été voir les gens avec qui tu travailles des fois, qui produisent le coton.
Exactement, ouais. Alors, j'ai vu qu'une toute petite partie, parce que c'est assez grand. Mais effectivement, en fait, quand j'ai lancé la marque, tout début 2020, en fait, je suis allé sur place au Pérou parce que je voulais retracer toute la chaîne de production et voir de mes propres yeux qui allait concevoir les vêtements, comment pousser le coton, où, à quel endroit, par qui, comment travailler les gens, etc., etc. En fait, je voulais rien laisser au hasard. Je voulais pas me dire, telle étape de production, je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, c'est pas grave après tout. Et tu vois, j'ai vu, par exemple, des ateliers où je me suis dit, c'est pas possible que je travaille avec eux, c'est pas bon faire. Et j'ai vu d'autres fournisseurs de coton qui étaient non bio, et pareil, c'était pas dans l'ADN de la marque.
On va reparler peut-être un peu de cette couleur de la fibre, parce qu'alors autant c'est d'un point de vue botanique et végétal, c'est super de voir que le coton n'est pas que blanc et qu'il a plein de couleurs, mais je suppose que quand on crée une marque, c'est pas forcément évident. Ça veut dire que tu as une gamme de sweets par exemple de la même couleur, ou il peut y avoir des variations, enfin tu vois, est-ce que c'est unique? Comment tu fais pour gérer ce côté-là, couleur qui varie en fait en fonction de la récolte ou de la peut-être du coton, du lieu?
C'est une très bonne question. C'est vrai qu'au début, pour être tout à fait transparent, quand je suis allé voir mes fournisseurs, quand j'ai trouvé ce fournisseur qui avait ce coton non teint, il avait aussi du coton Pima blanc, et à la base, je m'étais dit, je vais faire des t-shirts ou des chemises avec ce coton Pima, et peut-être un ou deux trucs en coton non teint. Et après, quand je l'ai vu, quand on a fait les premiers protos, je me suis dit, mais en fait, non, c'est vraiment un truc de fou, ce coton. J'ai axé 90% de ma collection sur cette fibre. Et le premier inconvénient, entre guillemets, que j'ai, c'est que tu as une seule variété de couleurs, entre guillemets. Tu n'as que du marron, donc il faut être assez... faut pas mal se diversifier, mine de rien, parce que les gens peuvent vite se lasser. J'ai un sweat marron, je ne vais pas acheter un deuxième sweat marron. <tu vois. rire> Après, c'est une autre approche. C'est des vêtements qui durent plus longtemps, donc... On peut se dire qu'il va acheter un sweat, il va le garder longtemps, et peut-être qu'après, la personne achètera un t-shirt.
Ouais, mais c'est important, ça, cet aspect durable aussi, parce que c'est quand même, quand on le voit dans ta marque, c'est quand même pas juste acheter un t-shirt ou un sweat, et puis c'est super, ça vient du Pérou, et on va en acheter d'autres à côté, quoi. T'as quand même une logique derrière où il est censé aussi durer plus longtemps, être plus solide, plus doux, plus... effectivement, on va peut-être pas en acheter trois marrons, mais... Mais voilà, il y a quand même un côté de durabilité derrière qui est important, qui est rare dans l'industrie textile, évidemment.
Ouais, c'est pas du tout la norme, en fait. On est plutôt sur de la mode jetable. On achète un t-shirt, bon bah il a fait trois lessives et bouloché, il a vrillé, tant pis, je l'ai acheté que 4€, c'est pas grave. Ouais, effectivement, là j'essaie de déconstruire un peu, c'est hyper dur. Enfin, je dis je, mais en fait c'est toutes les marques de mode éco-responsable qui ont à peu près le même credo. C'est ouais, essayer de déconstruire un peu toute cette image de surconsommation qu'on a et d'être sur de la mode jetable. Là, on essaie de produire des vêtements qui sont bien conçus, qui durent longtemps et dont les personnes peuvent être à la fois fières et à la fois contentes de leur achat.
Super. Et est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, tu pourrais sortir, tu nous disais qu'il y en avait des fois qui tiraient vers le vert. Est-ce qu'on pourrait imaginer une mini collection, par exemple, de t-shirts avec cette couleur verte?
Ouais, c'est marrant que tu m'en parles parce que justement, on a fait une toute petite collection de capsules avec mon fournisseur récemment. Donc, avec un t-shirt justement qui est couleur avocat. Donc, franchement, c'est indescriptible oralement, mais c'est un espèce de marron, mais qui tire vers le vert. C'est assez subtil. Et on l'a lancé en plus d'une toute petite collection en édition limitée de ce fameux hoodie que tu vois sur l'écran, qui est marron foncé, donc qui utilise un autre coton un peu plus rare, qui a peut-être ou peut-être pas vocation à être reproduit, en fait. C'est ça qui est paradoxal.
Super, parce que c'est si vous vous intéressez un peu à la mode éco-responsable, le modèle économique est quand même bien différent, puisque, comme tu le dis, l'idée, c'est pas forcément d'acheter un nouveau vêtement tous les mois, enfin, c'est des vêtements qui sont censés être durables, mais du coup, il faut aller chercher des nouveaux clients, peut-être avoir une autre réflexion sur le style de vêtements, ou je sais pas. Nous, on gère du jardinage, on gère pas une marque de mode, donc je n'ai pas idée. Mais est-ce que c'est pour toi, c'est une fibre qu'il faudrait un petit peu mettre en avant par rapport à le coton, tu nous en as parlé, mais il y a plein d'inconvénients, et c'est encore quand même quelque chose majoritairement utilisé dans les grosses marques de fast fashion. Est-ce que toi, aller vers ces petites fibres plus conventionnelles qui peuvent être le coton sauvage, mais il y en a peut-être plein d'autres, dans, je pense au lin ou des choses comme ça, ou des laines particulières. Tu vois, moi, je suis près des Pyrénées, je sais qu'il y a des laines qui sont utilisées dans des toutes petites marques, toutes petites productions. Toi, c'est quelque chose qui est pour toi, il est un peu l'avenir de l'industrie textile ?
Très bonne question. Alors, c'est difficile d'y répondre. Je pense qu'il faut un tout, en fait. Pas forcément se focaliser sur une seule fibre. Tu as cité le lin, c'est un très bon exemple, parce que la France est le premier producteur de lin. Je sais que tu as des entreprises qui essaient de relocaliser, avoir un tissu industriel avec le lin, refaire venir les machines, retisser, etc. Ça, c'est vraiment des super initiatives. Je pense très sincèrement qu'il faut mieux produire, en fait, avoir un coton qui soit pas forcément que du coton sauvage ou que du coton pima, mais avoir au maximum du coton bio, en fait, vraiment changer les techniques de production, la façon dont on fait pousser le coton, et moins de polyester, moins de fibres synthétiques, peut-être plus de fibres recyclées aussi. Ça, c'est un super c'est une super façon de réutiliser l'existant. Un petit mix de tout. Et deuxième chose super importante, c'est que on est dans un stade de surproduction, en fait, au niveau mondial. On fabrique 100 milliards de vêtements par an, et c'est beaucoup trop, en fait. Donc il faudrait juste réduire cette production, en fait, par 2, par 3, par 4. Et ça ferait moins de coton conventionnel à faire pousser, forcément, si on réduit la consommation de vêtements. Donc c'est un peu tout ça mélangé qu'il faut que on essaie de mettre en place. Il faut essayer de changer les mentalités, à la fois auprès des consommateurs qu'on a chopé des mauvaises habitudes, et à la fois auprès des grosses marques qui ont un modèle économique qui est pas viable, en fait, à long terme.
Complètement. En tout cas, nous, on vous souhaite plein de nouveaux vêtements, marron clair, beige, vert avocat, de toutes les couleurs, ça c'est chouette. Est-ce que tu aurais peut-être un documentaire, un livre ou quelque chose à recommander qui t'a marqué sur le coton, sur le textile, sur tout ce que tu souhaites?
Bien sûr, t'as un super bouquin qui s'appelle Mon Dressing Heureux, de Céline.
Qu'on embrasse, qui lit Vert Magazine.
Salut. Qui est vraiment extrêmement bien écrit, très complet. Elle connaît très bien l'industrie textile. Pour ceux qui veulent creuser, tu as The True Cost. Excellent, franchement excellent. Dure une année, je crois, et ça met une grosse claque, clairement. Dans un style différent, tu as Legacy, Diana Arsour Bertrand. Tu as, sinon après dans les podcasts, bah il y a un peu comme toi, il y a d'autres podcasts qu'on essaie de mettre en avant des initiatives engagées. Et tu as le basique podcast de Jeanne qui est super cool.
Tout à fait. Dans l'industrie, on essaiera de vous mettre des liens, mais il y a beaucoup d'autres podcasts qu'on aime bien qui parlent de mode éthique.
Je suis un bon consommateur et c'est vrai que j'aime bien celui-là. Et après, pour prendre un peu de recul aussi, tu as le bouquin qui s'appelle Confession d'un entrepreneur pas comme les autres.
Ça me dit quelque chose, mais...
Sur Yvon Chouinard, en fait, le fondateur de Patagonia,
ouais.
Qui est pas mal aussi.
On lira. Je pense que nous, on ne fait pas de la mode éthique, mais on doit être dans les mêmes questionnements, je pense.
Carrément.
Super. Et est-ce que tu as un conseil pour voir la vie en vert, notre fameuse question?
Alors, je ne vais pas forcément revenir sur le fait d'utiliser du coton bio, etc., parce qu'on l'a beaucoup parlé déjà. Je pense que ton podcast, c'est effectivement la voie verte. On parle des plantes. Je pense qu'on a tendance à oublier, en fait, que les plantes sont des matières, des organismes vivants. Et des fois, on les néglige un peu, que ce soit le coton, on se dit, bah, on s'en fout, ce t-shirt, je vais le jeter. Des plantes qu'on va pas forcément prendre soin, on va pas les arroser, bon bah tant pis, c'est une plante que j'ai acheté IKEA 5 euros, on s'en fout. Je pense que c'est important de prendre un peu de recul par rapport à ça, d'en prendre soin, de se dire que derrière, bah, c'est des organismes dont on a besoin et qui sont sympas à voir. Donc.
Tout à fait, puis il y a plein d'usages, tu vois, on en a parlé d'un aujourd'hui, mais plein d'usages aux plantes, on pense souvent... aux usages voilà, dans la médecine ou cosmétique. Mais le textile, c'est vraiment un des usages en fait, les plus importants en fait, des plantes. Quoi.
Ouais, carrément. Et moi, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, notamment avec la permaculture, par rapport à plein de choses. Tu vois, tiens, un deuxième petit conseil bonus, mais par exemple, je fais du compost. Je crois que ça représente un tiers de nos déchets. C'est énorme. Du coup, je me reverrai pas mettre mes épluchures de légumes dans la poubelle. Tu
vois. Très bon conseil. Ben, merci beaucoup à toi. Évidemment, on remet tous les liens, voilà, ton site. On vous invite à aller voir. On commandera nous nos petits t-shirts de chez toi ou nos sweats. On te fera une belle photo Vert Magazine, Pitu Marca. Et voilà. Et à bientôt. Et en tout cas, plein de belles choses avec ta marque.
Ouais, c'est super gentil. Merci encore pour cette invitation et n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on creuse davantage, envoyez-moi un message.
Évidemment. Merci à toi.
Merci, à plus.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
Aujourd'hui, pas de mémo pratique pour apprendre à semer du coton, mais un petit aperçu botanique de cette plante finalement méconnue. Le coton est issu d'une plante, le cotonnier, un arbuste originaire d'Inde et désormais cultivé dans de nombreux pays chauds. Il appartient au genre Gossypium et à la famille des Malvacées. Oui, vous connaissez cette famille, elle vous offre par exemple les guimauves. Dans les cotonniers, il y a plein de variétés différentes. Des variétés herbacées, le cotonnier herbacé, un des plus connus, ou des variétés ligneuses, qui elles fabriquent du bois, comme le cotonnier arbre, le Gossypium arborum, lui aussi très fréquent. Les cotonniers les plus courants sont cultivés en plantes annuelles, en limitant généralement leur taille à moins d'un mètre, pour faciliter la récolte. Mais le coton à l'état sauvage, dont on parle dans l'épisode, est pérenne. Il vit plus d'une dizaine d'années et peut monter bien plus haut jusqu'à plusieurs mètres. Rentrons maintenant dans le détail. Après avoir fait de grandes tiges, arrive la fleur de coton. Et c'est là où on fait la principale erreur botanique. La fleur de coton n'est pas ce que l'on appelle fleur de coton chez nous, souvent séchée dans les bouquets, qui est en réalité le fruit, ce que l'on verra après. La fleur de coton ressemble à une véritable fleur, d'ailleurs très proche des autres plantes de sa famille, comme l'hibiscus ou la guimauve. La fleur de coton a 5 pétales, de couleur très claire, entre le blanc, le rose et le jaune, et elle n'a pas d'odeur particulière. À maturité, la fleur se transforme pour laisser apparaître les fruits, ceux que l'on appelle la fleur de coton chez nous. Vous suivez ? Ce sont des capsules assez rigides, à 5 lobes, 5 parties, qui renferment plusieurs graines, entre 5 et 12, entourées de filaments de cellulose qui les protègent. Ce sont ces filaments que l'on appelle coton. Généralement blancs, mais pas que, on l'a vu aujourd'hui. Ils sont très nombreux et de longueurs différentes, entre 2 et 5 cm. Plus le fruit sèche et plus les filaments seront résistants. La culture du coton est très contraignante. Elle a besoin d'une très longue période d'ensoleillement, au démarrage, 120 jours en moyenne, avec beaucoup d'eau, pour grandir et produire de nombreuses fleurs, puis d'une période de sécheresse pour que les fruits se forment, s'ouvrent et sèchent avant la récolte. C'est aussi une plante très sensible aux parasites et aux insectes. Voilà pour le petit tour d'horizon de cette plante utilisée depuis des millénaires pour la fabrication des vêtements, mais qui pose tant de problèmes environnementaux et éthiques aujourd'hui. Je vous laisse avec Hérodote, qui mentionnait déjà le coton indien quelques siècles avant Jésus-Christ et qui, lui, avait tout compris à la botanique. Là-bas, il y a des arbres qui poussent à l'état sauvage, dont le fruit est une laine bien plus belle et douce que celle des moutons. À bientôt ! La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !